Et ce soir, nous recevons Nicolas Bouchard, qui est venu souvent à Philopop, pour nous parler de la religion chez Simone Weil. Donc je lui laisse la parole et je le remercie au nom de tous d'être parmi nous ce soir.
Bonjour à tous, je suis très content d'être ici. Alors, peut-être donc la religion chez Simone Weil et peut-être en guise d'introduction. Puisque tu l'as dit, vu qu'il y a la femme politique qui est assez connue et que Simone Weil, la philosophe, est un peu moins connue, j'ai peut-être commencé par une petite rapide présentation de ce qu'elle est. Surtout qu'on va voir que l'essentiel des problèmes liés à la religion s'inscrivent très, très vite dans sa biographie, en fait. C'est-à-dire que c'est une intellectuelle engagée au sens où elle a une volonté de mise en cohérence constante de sa pensée et de sa vie, et on va voir mise en cohérence jusqu'à l'extrême. Donc le premier constat qu'on peut faire, hein, c'est qu'elle meurt à 33 ans, donc très jeune, en ayant simplement publié quelques articles avant-guerre, mais ce qui veut dire que l'essentiel de son œuvre est posthume. Donc elle naît dans une bourgeoisie athée juive, voilà, mais totalement assimilée. En 1925, elle devient l'élève d'Alain en Cagne à Henri IV, Alain le philosophe, et elle va rester proche d'Alain quasiment tout le reste de sa vie, ils se verront moins au moment de la guerre, mais voilà. Et donc, de par l'enseignement d'Alain, il y a une dimension rationaliste très forte à son œuvre. 1928, elle rentre à l'ENS, puis 1931, elle a l'agrégation de philo.
L'ENS, c'est l'école normale.
Oui, l'école normale supérieure. Voilà. Et entre 1931 et 1934, elle est professeure de philosophie dans différentes villes, notamment Auxerre, Saint-Étienne, Roanne. Et pendant ces années, dans ces villes, notamment dans le bassin de Saint-Étienne, elle est très en contact très fréquent avec les milieux ouvriers, notamment trotskistes et anarchistes. Et notamment, elle participe à une revue qui s'appelle La Revue Prolétarienne. En 1934, elle décide de se faire embaucher comme ouvrière dans différentes usines de la région parisienne pour pouvoir savoir de quoi elle parle, en fait. Donc, pour pouvoir savoir de quoi elle parle, elle veut connaître de plus près la condition ouvrière. Mais pendant ce temps-là, elle continue de participer à la revue de la Révolution prolétarienne. Et en même temps, toujours en 1935, elle a ce qu'elle appelle le premier contact avec le catholicisme. Alors, ce qu'on appelle premier contact, c'est pas qu'elle découvre le catholicisme, hein, mais c'est qu'en fait, c'est une expérience mystique, en fait. Elle décrit ça comme l'expérience d'être possédée par le Christ. Mais, c'est là où ça se complique, en 1936, elle participe à la guerre d'Espagne aux côtés des anarchistes. Et jusqu'à la guerre, en fait, donc de 1935 jusqu'à 1940, elle va développer ses trois activités, conjointement en tout cas. Donc l'activité intellectuelle rationaliste, l'activité politique militante ouvrière et l'activité religieuse, toutes ces trois activités-là se mélangent. En 1940, donc, elle se replie en zone sud, notamment assez vite à Marseille et en Ardèche, et dès 1940, c'est attesté, elle essaye de résister. Alors, il faut bien voir que, forcément, la résistance en 1940, c'est très très peu organisé. Mais en tout cas, elle témoigne auprès de différents amis, et notamment elle rompt avec les cercles pacifistes avec lesquels elle pouvait avoir des liens encore. Mais dès juillet 40, elle essaye de résister, tout en fréquentant de plus en plus les milieux catholiques, en partie pour se cacher, mais elle refuse de se faire baptiser. En 1942, donc là elle est repliée surtout à Marseille, et en 1942, elle quitte la France pour Londres via New York, et elle s'engage à Londres dans la France combattante, auprès du général de Gaulle. Mais sa santé est de plus en plus précaire. Bon, elle a toujours eu une santé fragile, hein, toute sa vie, mais là ça devient de plus en plus précaire, et elle meurt à l'hôpital d'une manière assez... Alors, on ne peut pas dire mystérieuse, hein, c'est pas qu'il y a un complot. Mais en tout cas, c'est très surprenant parce que quand elle est admise à l'hôpital, les médecins sont plutôt optimistes et en quelques mois, son état se dégrade. Enfin, voilà, les hypothèses, il y a différentes hypothèses. Voilà. Bon, Et donc vous voyez bien que dans tout ça, elle a beaucoup écrit, mais très peu publié. Ce qui fait qu'il est compliqué d'identifier ses œuvres majeures. J'en ai identifié quatre, notamment deux qu'elle considère comme ses grandes œuvres, elle-même, même si elle ne les a jamais publiées, et deux qui marquaient un tournant dans sa réception. Donc sa première grande œuvre, elle date de 1934, c'est La réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, qui constitue une première expression d'une pensée réellement, qui lui est réellement propre, c'est-à-dire une pensée de gauche, révolutionnaire, mais en rupture très nette avec le marxisme. Son autre grande œuvre qu'elle a écrite, qui constitue un texte assez long, c'est L'Enracinement, qu'elle a écrit tout à la fin de sa vie en 1943, qui est une commande faite par ses chefs de la France libre, donc un plan de réforme du pays pour quand la guerre sera finie. Et on verra que la commande n'a pas été spécialement respectée. Au niveau des autres œuvres qui ont marqué un peu la réception de Simone Veil, il y a La Condition ouvrière, qui est publiée en 1951, qui est un recueil de textes publié par Camus, qui réunit la majeure partie de ses textes liés à son expérience en usine. Les textes sont datés entre 1934 et 1942. Et l'autre texte qui là, est davantage consacré à l'aspect religieux, c'est Alors c'est comme ça qu'elle se fait connaître par La Pesanteur et la Grâce, publié par Thibon en 1947, je crois. Mais sinon, le texte où vraiment la majeure partie de ses écrits religieux sont réunis, c'est L'Attente de Dieu, qui est publié en 1960. Donc on voit déjà, rien que... Bon, c'est une présentation succincte, hein, mais on voit rien qu'à l'énoncé de cette biographie, une multitude de contradictions. J'en relèverai trois, il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est qu'elle... Bon, c'est peut-être celui qui saute le plus aux yeux, c'est qu'elle se dit à la fois anarchiste et religieuse, et très, 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 très religieuse. Voilà. Donc ça, c'est la première grande contradiction. La deuxième grande contradiction, c'est qu'on peut la considérer comme une mystique. Hein, à chaque fois, c'est les différents contacts, avec ce qu'elle appelle ses contacts avec le catholicisme, à chaque fois, c'est vraiment des expériences mystiques au sens fort. Donc et en même temps, toute sa vie, elle est demeurée rationaliste. Donc elle est à la fois mystique et rationaliste. Voilà. Et troisième contradiction, c'est qu'elle se dit profondément catholique, mais qu'elle refuse toute sa vie le baptême. Elle refuse pour des raisons théoriques le baptême. On va voir ça dans pas longtemps. Et cette contradiction, elle est renforcée par l'affirmation qui est dans le texte 1, notamment, hein, c'est juste une petite citation, mais l'affirmation que selon elle, elle n'a jamais changé d'idée. Elle a toujours, elle dit qu'elle a franchi des seuils, donc elle a parfois changé la forme, mais la substance de sa pensée pour elle est restée toujours la même. Dans un autre texte, elle dit qu'il lui semble qu'elle a toujours été chrétienne, même quand elle était anarchiste, en fait. Donc voilà, c'est des contradictions. C'est-à-dire qu'elle voit pas de contradiction, en fait, ce qui est quand même très étrange, entre l'anarchisme. On rappelle rapidement le slogan, hein, ni Dieu ni maître, enfin la devise, pardon, ni Dieu ni maître. Et son attitude religieuse. Donc, du coup, il va falloir creuser un petit peu, voir comment elle conçoit la religion, pour pouvoir trouver la cohérence dans tout ça. Cohérence qui, par contre, si elle était là, elle l'est pas. Si elle était là, elle verrait pas pourquoi ça nous pose problème. Pour elle, la cohérence est totale, en fait. Et c'est-à-dire qu'une part de cette contradiction est inhérente, en fait, à tout rapport religieux. À savoir que la religion, et pas seulement chez Simone Veil, hein, la religion en général, doit bien se distinguer de la foi. C'est-à-dire que, rapidement, si je dois donner comme toute définition préliminaire, elle est trop succincte, mais la religion, on pourrait dire que c'est l'ensemble des pratiques, des rites, qui proposent de réunir les hommes dans un rapport au divin. Donc la religion, c'est une institution qui est toujours une institution sociale. Et la foi, au contraire, c'est une croyance profonde et subjective envers des enjeux sacrés ou des enjeux divins. Donc, d'un côté, la religion qui consacre un rapport social, institutionnel, et de l'autre, un rapport personnel. Et au fond, il y a toujours une tension entre ces deux aspects. Parce que l'institution suppose toujours des automatismes aussi, des procédures qui contredisent la foi. Mais là où d'autres ont pu tomber dans une spiritualité vague, ils sont déistes, ils tombent dans la spiritualité New Age, Janipi, etc. Enfin, ce que vous voulez. Elle maintient, bien que le cœur de son rapport à la religion soit la foi, elle maintient une exigence sociale et une nécessité sociale de la religion. Et là, on peut voir encore une nouvelle tension, qui peut-être réunit toutes les tensions dont on a parlé jusqu'à présent. C'est-à-dire que s'il y a une nécessité sociale, c'est parce que, comme elle le dit, le christianisme est une religion d'esclaves. C'est-à-dire que, et elle dit qu'elle ne pouvait pas se sentir étrangère à cette relation, à cette religion d'esclaves. C'est-à-dire que c'est par là, c'est comme ça qu'il faut l'entendre en fait, hein, c'est par là, par le christianisme, que l'on peut sortir du malheur social. C'est-à-dire que la religion n'a de sens que comme attention aux opprimés et pour penser une sortie de l'oppression. Sauf que cela rentre en contradiction, d'abord très rapidement avec les erreurs de l'Église depuis que l'Église est instituée, en tout cas depuis que l'Église est devenue religion d'État, sous l'Empire romain. Voilà. Les massacres de la colonisation, les conversions forcées, les guerres de religion, voilà. Et ça encore, l'Église s'égare. Mais surtout, ça rentre en contradiction avec un élément qui est au cœur de toute religion, qui est l'exclusion des incroyants. C'est-à-dire que toute religion partage le monde entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Or, voilà, c'est-à-dire même une religion qui se dit universelle, justement, le mécréant, c'est celui qui ira en enfer parce qu'il n'a pas cru, normalement. Enfin, voilà. Or, justement, l'incroyant, si on réfléchit, il est malheureux. En l'excluant, l'incroyant, on cesse de s'adresser aux opprimés. Donc ça, il y a une première tension entre l'idée que le christianisme serait une religion d'esclaves et l'idée qu'on exclut les incroyants. Puis il y a un autre problème, il y a un autre problème qui ne cesse de la tourmenter aussi, c'est la subordination de la pensée, de la raison, à la foi. C'est-à-dire que, encore une fois, éventuellement la religion catholique peut ménager des espaces pour la raison, mais dans tous les cas, le scientifique, le penseur, le philosophe, doit se soumettre au dogme de la foi. Or, pour elle, si on commence à soumettre la pensée et l'intelligence à quelque chose, c'est la source d'une nouvelle oppression. Donc, du coup, si je devais résumer cet ensemble problématique, on pourrait dire comment Simone Veil peut-elle penser, ce que je voulais résumer, comment Simone Veil peut-elle penser la religion comme fondement d'une nouvelle civilisation débarrassée de l'oppression, alors que les institutions religieuses tendent à reproduire certaines causes du malheur social. Et donc, pour pouvoir éclaircir ça, on va rentrer dans la première partie que j'ai intitulée Malheur de l'homme sans Dieu, en référence à une partie des pensées de Pascal. Pascal avait pensé ses pensées, justement, comme un projet de faire. Il avait le projet de faire l'apologie de la religion chrétienne. Et toute la première partie des pensées, c'est une collection de textes qui partent dans tous les sens, les pensées, mais toute la première partie des pensées s'intitule Misère de l'homme sans Dieu. Et en fait, il y a un petit changement, vous voyez, c'est plus misère là, c'est malheur, on va voir que c'est très important. Parce qu'en fait, le projet de Veil, et elle le dit dans de nombreux textes, le projet de Veil s'inscrit toujours contre celui de Pascal. Bien que le lien soit plus ambigu, puisqu'elle reconnaît une certaine dette, mais en tout cas, elle considère que la conception de la foi, de la raison, de la religion chez Pascal est dangereuse. Parce que, justement, dans le passage, dans le gros passage des pensées, hein, puisque il y a presque un tiers des pensées, misère de l'homme sans Dieu, l'objectif de Pascal, dans ce passage, c'est d'humilier l'homme. L'homme sans Dieu mérite d'être humilié, il est vaniteux, il est hypocrite, il est faible, il est sans cesse dans l'erreur, il est incapable de vérité, et tout cela est de sa faute. Tout cela est lié à sa faute, tout cela par sa faute. Et donc, à force de lire les pensées, alors c'est vrai que c'est sans concession pour l'âme humaine, mais on en oublie la pitié qu'on devrait avoir pour le misérable. Et on peut voir, c'est là que l'adjectif misérable devient quasiment une insulte. Quand on dit de quelqu'un qu'il est misérable, voilà, misérable chien, misérable, voilà, c'est une insulte en fait. Et c'est pour cela que Pascal, c'est pour cela que Simone Veil, pardon, préfère le terme de malheur au terme de misère, puisque le malheur replace l'idée d'un sort. Malheur, c'est malheur. Et c'est le mauvais sort, en fait. C'est-à-dire, même si le péché joue un rôle, hein, on va voir ça tout à l'heure, c'est plus facile de compatir avec celui qui est malheureux. Et en tout cas, la pitié reste au centre de la notion de malheur. D'où le petit déplacement sémantique, c'est-à-dire que, certes, la souffrance est au cœur de la condition humaine, mais, voilà... Là où Pascal insistait surtout sur le vice de l'homme, on va voir que Simone Veil, elle insiste beaucoup sur la souffrance, justement. Et la différence, elle est fondamentale. Alors, cette souffrance, elle vient, en fait, des lois de la nature. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Voilà. C'est-à-dire que la souffrance, ce n'est pas un effet du vice de l'homme, mais des lois de la nature, vraiment au sens des lois scientifiques, en fait, hein. C'est-à-dire que quand on parle des lois de la nature, cela inclut à la fois les lois physiques, la pesanteur, la chute des corps, voilà, et les lois de la nature humaine. Il n'y a pas là-dessus, elle est quasiment spinoziste, hein, l'homme n'est pas un empire dans un empire, voilà. L'homme est soumis aux mêmes lois que le reste de la nature. Et la nature humaine donc, ne fait pas exception au fonctionnement des lois physiques. Et bah, comme dans les lois physiques, en fait, il n'y a que des rapports de nécessité et de possibilité. C'est ce que montre le texte 2. Hein. C'est-à-dire qu'on est sans cesse soumis aux lois physiques. Donc possibilité et nécessité sont les termes opposés à la justice. Et en fait, l'homme va toujours chercher à faire le maximum de ce qui lui est possible de faire. L'homme cherche toujours à exploiter sa force au maximum. Sa puissance au maximum. C'est-à-dire que tout comme on ne peut pas empêcher un corps soumis à la pesanteur de tomber, eh bien on ne peut pas empêcher l'homme de vouloir le maximum de son pouvoir. C'est, en tout cas, si on en reste dans les lois de la nature, si on en reste aux lois de la nature, l'homme voudra toujours le maximum de son pouvoir. C'est une nécessité de la nature humaine. L'homme veut naturellement étendre son pouvoir. C'est une loi de la mécanique, en fait. Et c'est pour cela que, la plupart du temps, quand on se retient, quand je dois m'accorder avec quelqu'un, je ne m'entends pas avec mon voisin, et puis on doit tracer la limite de notre propriété, on va s'entendre. Mais en fait, c'est juste un équilibre de force. C'est que nos forces... Donc, si mon voisin est faible, je ne vais pas hésiter à l'écraser. Et si j'ai l'occasion de lui prendre 2 mètres carrés de plus, je vais lui prendre 2 mètres carrés de plus. Et si je peux lui prendre 10 mètres carrés de plus, je lui prendrai 10 mètres de carrés de plus. Il n'y a aucun problème. Donc, il y a des lois de la mécanique. Et même à ces lois de la mécanique, on peut ajouter les lois psychologiques. C'est-à-dire que les lois de la psychologie humaine ne fait pas exception à la physique. On cherche toujours à dominer. Donc, en fait, si on en reste au niveau de la nature humaine, en fait, la soumission, on est face à une soumission totale à la force. Et la force qui s'applique de l'être humain sur l'être humain, la force qu'on applique sur l'autre, n'est pas si différente que ça des forces physiques. En fait, elle conduit à une réduction de l'homme à l'état de matière. C'est notamment tout ce qu'elle va démontrer dans un texte, c'est le texte 3 et le texte 4, Mystère de la photocopie, le titre, mais c'est aussi tiré de l'Iliade ou le poème de la force. Donc, dans une analyse de l'Iliade, c'est en fait une analyse de la notion de force. Et voilà, le texte, c'est ce que montre le texte 3. Hein. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Donc, l'homme qui est soumis à la force est réduit à l'état de matière. Et, au fond, l'homme s'énivre de cette force. Il oublie même qu'en face de lui, il a un être humain. Et ça, c'est ce que montre le texte 4. Et il rentre son épée dans un homme comme il pourrait rentrer un couteau dans du beurre. C'est exactement le même acte. La force que l'homme applique donc à un autre homme n'est qu'une expression des lois de la nature. Et en fait, on ne peut pas ne pas y être soumis. La seule consolation qu'on peut avoir dans l'Iliade, pardon, c'est qu'au moins, personne n'y échappe. Ceux qui, à un moment, méprisent la vie humaine par effet de la force et par énivrement de la force, se retrouvent eux-mêmes méprisés par une force supérieure sans s'en rendre compte quelques temps après. Mais en tout cas, quand on est pris par la force, on ne peut pas s'arrêter. Ce qu'on peut voir assez facilement, tous les crimes de guerre et toutes les attitudes des soldats quand ils prennent une ville, c'est ça. C'est vraiment l'énivrement de la force, en fait. Mais normalement, s'il y a une nécessité, on ne devrait pas s'en étonner. Si je donne un coup dans la vidéo, qu'on a mis un peu de temps à installer, normalement, personne ne s'étonnera que le téléphone tombe. Je le fais, non, je le fais pas. bon, alors pourquoi dans ce cas-là, on s'étonne quand on est soumis à la force ? Pourquoi cela nous procure du malheur ? Voilà. On n'a jamais entendu une pierre se plaindre d'être tombée. Pourquoi l'homme se plaint-il d'être soumis à la force ? Et pour cela, il faut analyser, donc là c'est le petit 2, hein, il faut analyser le malheur, la notion de malheur. C'est-à-dire que, si, alors que tout est normal, comment on explique qu'il y ait engendrement du malheur par la soumission à la force de l'autre homme, mais même par la soumission au malheur de la vie, hein. Voilà. C'est qu'en fait, la force, en nous réduisant à l'état de matière, elle détruit notre âme. Que l'on soit actif dans la force ou que l'on soit passif, que je sois soldat ou civil, en étant réduit à l'état de matière par la force, mon âme en est détruite. Et donc, au fond, tous ceux qui sont soumis à la force perdent leur humanité. Et c'est là qu'on atteint l'état du malheur. État du malheur qui est décrit dans le texte 5, qui est extrait donc de l'amour de Dieu et le malheur. Et pour bien comprendre le malheur, et c'est l'enjeu du texte 5, hein, d'essayer de faire une définition assez brève, il s'agit de définir précisément ce qu'est le malheur, et notamment de bien voir que ce n'est pas seulement l'opposé du bonheur, c'est plus que ça. Et qu'on doit le distinguer de la douleur, de la souffrance et de la tristesse. De la douleur et de la souffrance parce qu'il n'est pas seulement physique. De la tristesse parce que c'est un état beaucoup plus profond, qui atteint l'âme en profondeur. Et donc, du coup, le malheur, si on devait le définir de deux manières différentes, on pourrait dire que c'est une destruction totale de l'homme, de l'âme, pardon, destruction totale de l'âme. Voilà. Notre âme est comme brûlée de l'intérieur. Voilà. Et au fond, on pourrait dire qu'on est malheureux lorsqu'on a le sentiment d'être abandonné de tous, de Dieu et des hommes. Quand on a le sentiment de ne plus compter pour personne. Donc en fait, c'est comme si on était un mort-vivant, en fait. On est vivant, on a les caractéristiques d'un être vivant, on respire, voilà, mais on est mort à l'intérieur. Plus capable, notamment plus capable de rien éprouver. Et donc, on est encore vivant, mais aussi on a perdu toute raison, on a même perdu toute raison de vivre. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas voir ça comme la dépression. C'est plus fort encore que la dépression. Parce que le dépressif, il cherche encore un sens à sa vie et il est dépressif de ne pas trouver le sens de sa vie. Mais donc du coup, il n'a pas perdu l'espoir d'un jour peut sortir de sa dépression et de quitter le sens de sa vie. Le suicidaire n'est pas non plus dans l'état du malheureux. Parce qu'il a encore un sens de la dignité. Le malheureux, il a tout perdu. Vraiment, on est au cran d'encore après, si vous voulez. Donc, bien sûr, c'est pas, même si je l'ai défini par une destruction totale de l'âme, il y a quand même une dimension, il ne faut pas croire que c'est une dimension purement psychologique. Voilà. Et c'est aussi ce qui le distingue de la tristesse. C'est-à-dire qu'il y a une dimension physique, il y a vraiment une souffrance qui est intégrée. Et ça revient en fait à un déracinement de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une souffrance, ça fait souffrir aussi bien physiquement que psychiquement, de manière continue. Alors souvent, on prend l'exemple que je prends quand j'ai expliqué cette notion aux élèves, on peut prendre l'exemple de la mère qui a perdu son enfant. Voilà. La mère qui a perdu son enfant, ça, tout le monde voit l'état dans lequel elle peut être, et voilà, elle a perdu toute raison de vivre, en fait. Mais il ne faut pas croire pour autant que ce ne sont que des événements atroces qui peuvent conduire au malheur. Notamment, pour bien montrer ça, un des exemples représentatifs du malheur pour Simone Veil, ce sont les personnages de Molière. Harpagon, donc dans la Vare, ou Arnolf, dans l'École des femmes. Je rappelle que Harpagon, il a perdu ses sous, bon, mais il vit encore bien, hein. Il a perdu les sous qu'il avait de côté. Et Arnolf, c'est peut-être encore pire. On est dans une histoire qui est quand même proche, même si on est au XVIIe siècle. Bon, si Molière la présente, c'est que c'est quand même choquant. Arnolf, hein, il a une seule obsession, c'est de ne pas être cocu. Et donc, pour ne pas être cocu, il va chercher une petite orpheline dans les environs, dans la campagne. Il l'élève dans une pure naïveté, dans une totale ignorance du monde, pour comme ça, elle n'aura jamais l'idée de le tromper. Et un jour, arrive ce qui doit arriver, il s'en va en voyage, et là, elle croise un beau jeune homme au balcon, et c'est le début de la comédie. Mais vous voyez, ce que fait Arnolf, c'est pas... On n'a pas envie d'avoir de pitié pour lui, en fait. Et même, au fond, on a bien envie de dire « tu l'as bien cherché ». Et pourtant, on se doit de reconnaître que lui, il est malheureux quand même, en fait. Et ces exemples de Molière nous permettent de me montrer quelque chose, c'est que le malheur n'induit pas la pitié. Et c'est pour ça que l'exemple de la mère qui perd son enfant, c'est un bon exemple pour voir l'état psychique dans lequel on est quand on a atteint le malheur, mais ça fausse notre appréhension du malheur. Le malheur n'induit pas de pitié, et bien au contraire, parce que le malheureux, en fait, quand on y réfléchit, il est répugnant. Bah voilà, Arnolf, au fond, son obsession d'être cocu, Harpagon, son avarice, c'est des choses répugnantes qui contaminent tout leur rapport aux autres. Et donc, au fond, les personnages de Molière, on se permet de les mépriser et de se moquer d'eux. Le reste du malheur, il y a un mépris aussi, mais qui est non avoué. Personne n'avouera jamais qu'il méprise le malheureux. Voilà. Mais au fond, quand on y réfléchit, vous voyez, c'est quand on croise un SDF qui est sale, qui pue, on a du mal à réprimer un petit recul de voilà, de pas marquer notre dégoût en face de cet homme. Et ce mépris du malheur, il est retourné par le malheureux contre lui-même, en fait. Voilà. Là-dessus, on peut penser au comportement autodestructeur. Voilà, le drogué, voilà. Mais on peut aussi penser, tout bêtement, quand quelqu'un nous dit que, bah, de toute façon, moi, je suis bête, je comprends pas. C'est horrible que cette phrase, je suis bête, je comprends. Quand les élèves me disent ça, généralement, je suis assez démuni. Et le mépris, ce mépris du malheur, on peut le voir aussi dans un autre élément, c'est dans le mépris qu'on porte au crime. Parce qu'en fait, quand on méprise un criminel, on croit qu'on méprise le crime, ce qui serait bien, on va pas faire l'éloge du crime. Mais en fait, quand on y réfléchit, il n'y a pas du tout de mépris du crime. La preuve, c'est que les tueurs en série nous fascinent. On regarde des séries, on regarde Faites Entrer l'Accusé, on regarde ceci. Et voilà, on est scotché par Faites Entrer l'Accusé. Ça veut bien dire qu'en fait, on ne méprise pas le crime. Sinon, on n'aurait pas fait un film du Parrain. Enfin, la mafia, c'est quand même un truc dégueulasse. Et il y a une trilogie qui est un très bon film. Mais ça veut bien dire qu'on est fasciné par ça. C'est pas le crime. C'est pas le crime qu'on méprise quand on méprise le criminel. C'est le malheur, parce que 95% des criminels qui sont jugés, en fait, c'est des malheureux. Donc, cette destruction de l'âme par une soumission aux lois de la nature, un, elle nous menace tous, voilà. Harpagon, il a placé sa vie dans une cassette. Si c'est ma gourde fétiche et qu'on me la casse, je peux tomber dans le malheur, presque, éventuellement. Voilà. Et si on peut être détruit de l'intérieur, cela suppose des besoins de l'âme humaine, qui expliquent, en fait, qu'une soumission à la force détruit cette âme. Si on était une pure matière, jamais la soumission à la force n'engendrerait de problème. Voilà. C'est la différence entre la pierre et nous. C'est-à-dire qu'on vit mal le fait d'être réduit à l'état de force, à l'état de matière, pardon. Et donc, de fait, il faut analyser un petit peu plus en détail les besoins de l'âme. Et donc, c'est le petit 3. C'est-à-dire, parce que malgré tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et sans crainte de la contradiction, vous aurez compris que ça ne la gêne pas, elle, donc pourquoi on gênerait, nous avons primordialement des obligations envers l'être humain. C'est-à-dire que, malgré le traitement que l'on subit, qui s'explique donc par une soumission à la force, malgré cela, on doit un respect inconditionnel à l'être humain. Alors, bien entendu, c'est en droit. Enfin, le terme est très mal choisi, je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. En tout cas, on doit, dans les faits, ça n'est pas le cas. Dans les faits, le respect pour l'être humain n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire que ce respect n'est pas dû. C'est-à-dire que, au-delà de la soumission aux lois de la nature, l'homme a une destinée éternelle. C'est ce qu'elle affirme dès les premières lignes de l'Enracinement, qui est donc presque son œuvre testament. Voilà. Et c'est dans le texte 6. Les obligations que l'on a à l'être humain, elle est ancrée. Cette obligation était éternelle, elle répond à la destinée éternelle de l'être humain. Seul l'être humain a une destinée éternelle. C'est la fin du troisième paragraphe du texte 6. Et notamment si l'homme a une telle destinée, seul l'homme a une telle destinée éternelle, ça veut dire, conséquence, que les collectivités n'en ont pas. On ne doit aucun respect, ça ne veut pas dire qu'on doit les saccager, hein, mais on ne doit aucun respect à la nation, à la famille. Non, c'est l'individu à qui on doit un respect. Ah, au club de foot, on ne doit pas de respect au club de foot. Même si c'est le hack. Donc, au fond, cette obligation, elle est totalement inconditionnée, parce qu'elle est éternelle. Et cela, bon, si elle est éternelle, éternelle, ça veut dire hors du temps. Donc forcément, si cette obligation est éternelle, vous allez me dire, c'est un peu facile, on ne peut pas en trouver de preuve historique. Bah oui, c'est hors du temps, il n'y a pas de preuve historique de cette obligation éternelle. Mais néanmoins, on constate malgré tout des traces de ce respect dans ce qu'elle appelle la conscience universelle. C'est-à-dire dans les différentes civilisations, il y a des marques de ce respect qu'on doit à l'être humain. Et l'autre élément, c'est que quand on examine une situation dans laquelle on n'a pas d'intérêt, c'est-à-dire quand il n'y a pas de passion, pas d'intérêt, tout le monde reconnaît ce respect dû à l'être humain. C'est-à-dire que si je vois, deux personnes se taper, une personne se jeter sur une autre alors que la première n'a rien fait, je vais juger ça anormal. En revanche, si ça me permet de récupérer son téléphone, là, je vais trouver ça tout à fait normal, parce que mon intérêt ou ma passion rentre en ligne de compte. Mais si je suis désintéressé, si je regarde de l'extérieur, je vais reconnaître ce respect. Et quelque part, cette obligation, on la retrouve aussi autre part, c'est que malgré toutes les horreurs que l'on ne cesse de subir des autres, quand on n'est pas totalement malheureux, on s'attend toujours au bien. On s'attend à ce que l'autre nous traite bien. Ce qui, normalement, est contradictoire avec le fait qu'on soit soumis aux forces. C'est-à-dire que, et quelque part, c'est cette attente du bien chez l'autre qui nous oblige. C'est-à-dire que le fait qu'un acte désintéressé soit possible, ou même, quand bien même il ne serait pas possible, le fait qu'un acte désintéressé soit pensable, eh bien, ça vérifie les obligations que l'on a envers l'être humain. Et c'est cette obligation, ces obligations plutôt, qui permet de juger un ordre social. Un ordre social est d'autant plus imparfait qu'il empêche de remplir les obligations que l'on a envers l'être humain. Je ne sais pas, un ordre social qui condamne la solidarité qu'une personne porte aux migrants peut être jugée imparfaite, puisqu'elle empêche le respect que l'on a envers l'être humain. A l'inverse, il y a un progrès à chaque fois qu'un ordre social permet de remplir davantage d'obligations. Donc, une société qui ne laisse plus crever de faim ses membres est un progrès par rapport à une société dans laquelle les individus meurent de faim. Et donc, avec cet exemple de la faim, vous voyez, s'il y a obligation, il y a besoin, forcément. C'est-à-dire que l'homme a besoin de quelque chose, et c'est pour ça qu'on a une obligation envers lui, qu'on est obligé. Et à côté des besoins physiques, on a parlé de la faim, on pourrait rajouter un logement décent. De quoi dormir, donc le logement décent, éventuellement la soif. Eh bien, il y a aussi des besoins moraux. Et dans l'enracinement, Simone Veil en liste 14, je vais les dire rapidement, même si, qui pour elle sont inconditionnels. Il y a un besoin d'ordre, un besoin d'obéissance, un besoin de responsabilité, un besoin d'égalité, un besoin de hiérarchie, un besoin d'honneur, un besoin de châtiment, un besoin de liberté d'opinion, un besoin de sécurité, mais aussi un besoin de risque. Vous voyez, c'est comme égalité et hiérarchie, il y a les deux besoins en même temps. Il y a un besoin de propriété privée, mais il y a aussi un besoin de propriété collective, et il y a un besoin de vérité. Alors, bon, on peut discuter de l'inconditionnalité de ces besoins, même si elle a certains arguments difficiles quand elle parle d'un besoin de hiérarchie, de ne pas voir les traces des milieux dans lesquels elle baigne à ce moment-là, à savoir les milieux, certes en rupture avec Pétain, mais de la Révolution nationale quand elle est en France, puis les milieux gaullistes quand elle est à Londres. Mais dans tous les cas, on peut quand même dire que, donc, même si on peut contester l'inconditionnalité de ses besoins, La privation de ses besoins entraîne, à terme, le malheur. Et la conséquence de l'importance de ces besoins, de ces besoins de l'âme notamment, s'ils sont fondés sur une obligation inconditionnelle, ça entraîne chez Simone Weil quelque chose qui nous posera problème après, qu'elle critique la notion de droit. En fait, la notion de droit, notamment le droit de l'homme, le droit de la personne humaine, est une idée vague et qui mène l'homme dans l'erreur, en fait. Donc qui contredit même le besoin de vérité. Parce que le droit, en fait, ça suppose toujours un rapport de force. Et donc derrière tout droit, il y a l'idée de marchandage. C'est d'ailleurs quand quelqu'un réclame et dit « j'ai le droit ». Voilà. On a du mal, enfin, il y a cette idée de vraiment de réclamer quelque chose. Et au fond, le droit, c'est un concept du monde de la force. Donc bien sûr, on ne peut pas s'en passer, parce qu'on vit dans le monde de la force, mais il ne faut pas fétichiser trop cette notion de droit. Lutter pour des droits, lutter pour ses droits, c'est peut-être encore pire, c'est toujours un peu suspect. Il y a toujours l'idée qu'on lutte pour son intérêt, en fait, derrière. Alors, ça, comme je l'ai dit, on ne peut pas se débarrasser totalement du droit, mais le droit apparaît quand l'obligation que l'on a envers l'être humain descend au niveau des faits. Donc, en fait, le droit est toujours conditionné à un milieu social, à un contexte. Et du coup, à ne se placer que sur le terrain des droits, on oublie la destinée éternelle de l'être humain. Et c'est en ça que ça nous induit en erreur. Donc, avec la notion de malheur et avec la notion d'obligation, on voit bien qu'en fait, les besoins de l'âme convergent vers un point. Ce dont on a besoin, au fond, c'est un besoin surnaturel. Il y a les lois de la nature. Et les lois de la nature sont contraires au respect dû à l'être humain. Et pour sauver l'humanité, il faut contrer les lois de la pesanteur avec quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être la religion. La religion va permettre de trouver la dignité de l'homme de manière inconditionnelle, justement. Va permettre de retrouver cette destinée éternelle de l'être humain. Et on en arrive à la deuxième partie, pour une religion des esclaves. Donc, voilà. Le mal naturel entraîne un besoin religieux. C'est-à-dire que sans religion, l'homme serait livré à un malheur sans retour. Et donc, ce qui veut dire que c'est avant tout pour le malheureux qu'il y a une nécessité religieuse. Mais quand on dit religion des esclaves, quand je l'ai dit en intro et là dans le titre de ma partie, il ne faut pas voir dans cette religion des esclaves un motif d'espérance. De toute façon, le malheureux, s'il est vraiment malheureux, il a abandonné tout espoir. Voilà. Donc c'est pas, quand on dit religion des esclaves, c'est pas une religion pour nous permettre d'espérer. Du fait du mal radical que constituent les lois de la nature, cela va imposer une conception très particulière de la religion. Et notamment, va se poser assez vite une question que tous les penseurs religieux rencontrent, qui est la question de la théodicée. La théodicée, c'est la justification du mal. Si Dieu est bon, bon je la fais très courte, hein, mais si Dieu est bon, comment on explique le mal ? Pourquoi il permet que l'homme agisse mal s'il est bon ? Voilà. Comment justifier l'existence du mal ? Et c'est ce qu'elle va faire avec... le concept qu'elle utilise, c'est le concept de décréation. Mais ce concept de décréation, il est très proche d'un concept théologique plus ancré dans la tradition, qui est le concept de kénose, en fait. J'ai pas trouvé le mot kénose sous la plume de Simone Veil. Mais de fait, on va voir hein, que c'est très très proche de la clinique. Alors, si on reprend là où on s'était arrêté avec les besoins de l'âme, comment expliquer que l'on attende du bien ? Eh bien, ça, si on peut attendre du bien, ça va de pair avec un autre comportement humain, là, pour le coup. Qui est qu'il arrive, malgré tout, ça apparaît dans le texte 7, tout en haut de la page 3, il arrive, malgré tout, que le fort, alors qu'il est fort, qu'il peut écraser l'autre comme un insecte, s'abstiennent de commander, laisse l'autre exister. Il y a plein d'exemples. Hein. On va prendre un exemple très fréquent dans les films. Quand on a l'ennemi à sa merci et qu'on le laisse en vie, on s'abstient de commander à ce moment-là. Et donc, au fond, il arrive que l'on n'impose pas la force qu'on pourrait imposer. Et en fait, c'est une attitude qui est tout le temps louée. On considère que cette attitude-là est humaine. C'est aussi quand on voit son enfant faire un mauvais choix, devenir prof de philo, par exemple. Qu'est-ce qu'il va faire, devenir prof de philo ? Et on le laisse quand même faire. On pourrait commander, fais pas de la philo, fais un truc sérieux. Trader. Mais non, on le laisse quand même faire. Et quelque part, même si, quand bien même, il y aurait un intérêt caché, au fond, il sera fonctionnaire, c'est pas mal. Mais quand même, il y aurait un intérêt caché. Si quand bien même on pense qu'une attitude où on s'abstient de commander pourrait être bonne, eh bien, ça veut dire qu'on juge que le bien est là, en fait. Donc, quand bien même ce serait exceptionnel, surnaturel, c'est attendu malgré tout comme un bien. Et dans ces cas-là, au fond, on reproduit le geste créateur de Dieu. Quand on s'abstient de commander, on reproduit le geste créateur de Dieu, et c'est là qu'on est totalement dans la kénose. La kénose, je vais quand même le définir, hein, c'est l'idée que Dieu se dépouille de ses attributs divins, et notamment il renonce à sa toute-puissance. L'exemple type, c'est dans la religion catholique, la crucifixion. Dieu, le Christ, accepte de mourir. Et en fait, ce qu'on retrouve au moment de la Passion du Christ, elle doit s'appliquer à la création du monde. En fait, le monde existe parce que Dieu le laisse exister. C'est-à-dire que la création du monde, ce n'est pas un acte d'expansion, ce n'est pas Dieu qui monte sa toute-puissance, c'est Dieu qui accepte que quelque chose d'autre que lui-même existe. Donc en fait, c'est Dieu qui se retire. C'est un petit peu, on pourrait prendre l'image de la marée. Donc, Dieu, c'est à marée haute, et à marée basse, il laisse découvrir le monde. Voilà. Donc, en fait, Dieu s'est retiré du monde. De ce fait, l'absence de Dieu dans le monde n'est pas une preuve de son inexistence. Bien au contraire. L'existence de la nécessité, des lois de la nécessité, c'est un effet de l'acte créateur. Parce que Dieu s'est retiré, il laisse les lois naturelles exister. Et il en va de même du péché et du mal. En fait, on existe parce que Dieu nous laisse exister. Et bon, par amour, Dieu laisse donc exister un être imparfait. Quand on laisse exister un être imparfait... Un être imparfait laissé à sa propre existence va forcément, à un moment, mal agir. Et donc, de là, peut se conclure l'idée que laisser exister l'autre, c'est le véritable acte d'amour. Bah, là encore, hein, on peut le voir dans l'éducation. L'éducation, le but de l'éducation, c'est pas que l'enfant reproduise ce que nous, on est. On éduque un enfant pour le laisser être. Pour qu'il puisse mener sa vie de manière autonome. Et donc, on peut généraliser ça donc, à tout acte créateur. Tout acte créateur, c'est un retrait de soi pour laisser être ce que l'on crée. Et notamment, c'est valable en art et en science. Là, le grand artiste et le grand scientifique, c'est celui qui s'oublie lui-même, pour le scientifique, pour être attentif à la création. Souvent, on se moque de Newton, en disant, ouais, il glandait sous un pommier, il a pris une pomme. Vraiment, les scientifiques, ils ont que ça à faire. Ils ont du temps à perdre. Mais non, en fait, Newton, il s'est oublié lui-même. Il était totalement attentif à la situation. Et donc, du coup, c'est parce qu'il s'oublie qu'il laisse sa théorie exister. Et les grands artistes, même chose. Alors, les grands artistes, souvent, on le voit un peu plus parce qu'il y a cette image du créateur qui se perd complètement dans son œuvre. Mais voilà. Et, quelque part, la religion, elle est nécessaire pour reconnaître, pour formaliser cet acte kénotique. À une seule condition, c'est qu'il s'agit d'une religion de la kénose. C'est ce que montre le dernier paragraphe du texte 7, donc toujours page 3. Hein. Les religions qui ont conçu ce renoncement, cette distance volontaire, cet effacement volontaire de Dieu, son absence apparente et sa présence secrète ici-bas, ces religions sont la religion vraie, la traduction en langage différent de la grande révélation. Elle ajoute au contraire, les religions de la toute-puissance sont là des religions idolâtres. Donc, notamment, ce qui veut dire que il peut y avoir plusieurs formulations de la vraie religion. Notamment dans ces différentes œuvres, bah, bien sûr, il y a le catholicisme, mais elle parle de l'islam soufi. La tradition soufie dans l'islam, c'est aussi une expression de la religion vraie. Elle parle de la religion de l'ancienne Égypte, avec le livre des morts, c'est une expression de la religion vraie. L'hindouisme, c'est une expression de la religion vraie. La religion grecque, et justement grecque, justement pas romaine. La religion romaine, quand elle devient religion d'État pour assurer le pouvoir de l'empereur, là, on perd la dimension kénotique et on tombe dans l'idolâtrie. Donc, au fond, les religions, ce sont comme des langues différentes. Et c'est ce qui explique que, pour elles, la conversion ne peut être qu'exceptionnelle. Elle dit, bah, si c'est des langues différentes, on ne change pas de langue facilement. C'est extrêmement rare d'être bilingue, en fait. Forcément, si on commence à se convertir, on va être gêné dans notre rapport à Dieu. C'est comme quand je parle anglais, en fait. Même si, bon, en plus, je ne suis pas très bon. Mais disons, même si je suis très bon en anglais, je vais quand même être gêné dans l'expression précise de mes pensées. Il n'y a jamais parfaitement l'expression parfaite, la petite nuance que me permet le français. Et ce qu'elle dit, bah, la conversion, souvent, ça donne ça. On n'arrive pas à avoir l'expression parfaite de notre rapport à Dieu. Et si la vraie religion est une religion de la kénose, ça permet de régler le problème assez vite, on va voir ça, de la relation aux incroyants. La religion étant kénotique, étant cachée, bah, on ne peut pas damner ceux qui ne la reconnaissent pas. Enfin, ça serait absurde, puisque par principe, tout est fait pour qu'on ne la reconnaisse pas. Et c'est ici qu'on arrive au deuxième élément clé de son rapport à la religion, c'est le concept d'amour implicite. Parce que, au fond, la question de la croyance importe peu. Peu importe que je crois ou pas. Alors, on est un peu dans le poème d'Aragon, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Voilà. Et on peut aller plus loin. Comme il y a un secret de Dieu, eh bien, Dieu est présent dans certains actes sans que personne ne sache qu'il est présent. C'est-à-dire que, bon, peu importe que la personne soit croyante ou non, certains de ces actes sont tellement surnaturels, tellement hors du commun, tellement beaux, qu'ils ne sont possibles que parce que Dieu est là pour les réaliser en elle. Et cette personne a beau être le pire bouffeur de curé du monde, il n'y a pas de problème, s'il fait certains actes qui sont ses amours implicites, il sera sauvé. Et il n'est pas croyant, mais c'est tout comme. À l'inverse, quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches et qui traite avec le plus grand mépris ses ouvriers, puisqu'on va parler du travail dans pas longtemps, bah, cette personne-là, elle a beau se dire croyante, ça ne vaut rien. Et donc, c'est là qu'on arrive à la notion d'amour implicite. C'est-à-dire qu'il y a un amour de Dieu qui est implicite, c'est-à-dire qu'il y a un amour de Dieu alors que la personne ignore qu'elle aime Dieu et que Dieu l'aime. Et donc, la personne peut être extrêmement athée. Et c'est ce que dit la fin du texte 8, hein, chacun des formes dont cet amour implicite est susceptible, au moment où elle touche l'âme, a la vertu d'un sacrement. C'est-à-dire que ces amours implicites sont des sacrements. Or, un sacrement, c'est ce qui donne la grâce, dans la théologie, hein, c'est ce qui donne la grâce à la personne et c'est ce qui permet de sauver la personne. Donc, au fond, même si la personne n'est pas croyante, l'amour implicite, c'est ça qui va la sauver. Et qui va la sauver de la damnation. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la personne qui vit cela, elle vit dans le bien. On va voir que ses amours implicites, c'est le bien, en fait. Et donc, elle échappe au péché. Or, si on échappe au péché, on est sauvé. C'est la définition du salut. On atteint le salut quand on échappe définitivement au péché. Et donc, quelqu'un qui serait en permanence, c'est théorique, hein, mais qui serait en permanence soumis à ses amours implicites, ou explicites d'ailleurs, on s'en fiche, hein, du coup, il serait sauvé. Alors, elle distingue, elle, quatre amours implicites, enfin, trois et demi, exactement, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Ces objets sont au nombre de trois, sont les cérémonies religieuses, la beauté du monde et l'amour du prochain. Donc il y a amour du prochain, amour de la beauté du monde, et amour des cérémonies ou amour des formes religieuses. Et elle rajoute, c'est pour ça que je dis 3,5, elle rajoute l'amitié. Alors, pourquoi elle rajoute l'amitié et pourquoi elle le met à part? Parce que, en fait, l'amitié, c'est très très proche de l'amour du prochain. La petite différence, c'est que l'amitié, on choisit son ami, alors que le prochain, c'est... voilà. Et l'amitié, pour elle, l'amitié, c'est entre égaux. L'amour du prochain, il y a un déséquilibre dans l'amour du prochain. C'est la charité, en fait, l'amour du prochain. Alors, ce qui est très étrange, déjà, c'est que, soit la charité, l'amour de la beauté du monde, c'est le choc esthétique, hein, si vous voulez, vous êtes en face d'un coucher de soleil, face d'un tableau de qui vous voulez. Je sais pas, Nicolas de Staël, voilà, Monet, choc esthétique. Là, on est en face de l'amour de la beauté du monde. L'amour des formes religieuses, qui est très proche, c'est la ferveur que peuvent ressentir certaines personnes qui sont croyantes, souvent, mais même pas forcément, hein, la ferveur qui peut nous saisir en face d'une cérémonie, d'une procession, des choses comme ça. Voilà. Alors, ce qui est très étrange, déjà, c'est que ça semble être des expériences assez banales. Enfin, voilà, l'amitié, quand même... Tout le monde est plus ou moins un jour confronté à l'amitié. Le choc esthétique, tout le monde a déjà eu un choc esthétique dans sa vie. Donc, en quoi y a-t-il du surnaturel dans ces amours implicites? Alors d'abord, il ne faut pas croire que c'est aussi banal que cela. Notamment, un acte de charité, le plus simple pour comprendre ça, le plus simple, c'est l'acte de charité. Un acte de charité pur, c'est extrêmement rare. Parce que dans l'acte de charité, il faut considérer le malheureux exactement comme son égal. Donc, par exemple, ne pas écouter le malheureux simplement par compassion. Parce que si on l'écoute par compassion, on le renvoie à son malheur. Voilà. En fait, dans l'acte de charité pure, on ne voit pas une inégalité qui pourtant saute aux yeux de tout le monde. Si je reprends mon exemple dont j'ai parlé tout à l'heure pour le malheur, je suis en face du SDF qui pue, qui ne s'est pas lavé depuis 3 semaines, mais je ne sens pas son odeur. Et non seulement je ne sens pas son odeur, mais en plus, je ne vois même pas que c'est un misérable. Je le traite comme un pur être humain. Alors, déjà, on voit que ce n'est pas si fréquent que ça, en fait. Mais on voit bien aussi, quand on donne de l'argent à un SDF, on est toujours un peu embarrassé. On ne sait jamais bien comment donner cet argent. Parce que, justement, on n'arrive pas à effacer cette distance qu'il y a entre lui et nous. Donc, en fait, c'est prêter une attention totale au malheureux, sans voir que cette attention totale, on la prête à cause de son malheur. C'est ça, la charité. Bon, on voit déjà que c'est moins fréquent que ce qu'on croyait. Et en fait, le choc esthétique, c'est pareil aussi. Quelque part, à force, quand vous allez un peu trop dans les musées, vous êtes blasé, quoi. Bon, bah la Joconde, voilà, en plus, il y a plein de monde devant. Et puis, même chose. Et en fait, il faut que Beaubourg soit fermé pendant 5 ans. Ah merde, ça va manquer quand même. Voilà. Et en fait, si on revient sur la charité, en faisant cela, on redonne vie à celui qui était malheureux. Et donc, il y a création de vie à ce moment-là. Donc, création de vie, c'est une reproduction, encore une fois, de l'acte créateur de Dieu. Donc, il y a du surnaturel. Et au fond, il y a du surnaturel partout. Un, l'acte est contraire aux lois de la nature. Donc, il est surnaturel, puisque les lois de la nature, c'est l'affirmation de la puissance. Donc, ça, voilà. Et en plus, l'acte est création de vie. Et au fond, dans les quatre formes possibles qu'on a décelées, il y a un oubli de soi et il y a un acte d'amour totalement désintéressé. Et cet acte d'amour désintéressé va être le bien, en fait, on peut appeler ça le bien, et c'est l'amour de Dieu. Pour Simone Veil, parmi ces quatre amours implicites, la beauté constitue l'amour implicite le plus accessible dans le monde moderne. Parce que, au fond, la vie moderne nous détourne souvent de la charité. Au moins, la beauté, peu importe la vie moderne, voilà, un coucher de soleil. Alors, quand on a la chance d'habiter au Havre, un coucher de soleil sur la plage, tout le monde peut y être confronté. Et en plus, dans le choc naturel, ça, si vous voulez, ça peut constituer une introduction au désintéressement. Voilà. Le choc esthétique, je trouve ça beau, je peux me perdre une heure en contemplation devant le tableau ou devant le coucher de soleil. Et du coup, je m'oublie moi-même. Donc, j'apprends par là à oublier mon intérêt. Voilà. Alors, dernière chose très importante sur l'amour implicite de Dieu, faut bien avoir en tête que ce n'est pas qu'on aime Dieu implicitement. Bon, c'est vrai, mais ce n'est pas ça l'important. En fait, c'est Dieu qui aime implicitement en nous. C'est-à-dire qu'au fond, c'est Dieu qui agit à travers nous sans se faire voir. Et donc nous aussi, par effet, on a un amour implicite, mais cet amour implicite, il est secondaire. C'est Dieu qui se cache en nous, en fait. Si vous voulez. Alors, dans ces conditions, si l'important, c'est l'amour implicite, à quoi sert la religion ? Vu qu'on peut ne pas être croyant et être sauvé et bien agir, là, on pourrait se dire que la religion n'a plus beaucoup d'intérêt. Le croyant est sauvé comme l'incroyant, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, etc. etc. C'est-à-dire que d'un côté, l'essentiel, c'est l'acte d'amour. Le problème, c'est que sans religion, on ne prendrait pas conscience de l'importance de ces actes. Et même leur caractère surnaturel serait en danger. Si on oublie que l'amitié est quelque chose de surnaturel, on va avoir tendance à ne pas prendre soin de ses amis. Et du coup, à gâcher des relations qui seraient l'essentiel des relations humaines, en fait. Donc, c'est pas parce que les incroyants sont capables de ces actes, que ces actes sont faciles. Et au fond, la religion est là pour rappeler la dimension surnaturelle et pour être la gardienne de cette dimension surnaturelelle de ces actes. Et au fond, on voit que ici, tout est une question d'attention à l'autre. Et au fond, le fondement de l'attitude religieuse, c'est l'attention. C'est ce qu'elle appelle l'attention créatrice. Et j'en suis donc au petit 3 du grand 2. Et là, c'est une notion clé dans l'œuvre de Simone Veil, puisqu'on la retrouve dès ses premiers écrits, même dans les dissertations qu'elle fait à Alain. Et on la retrouve, cette notion d'attention. Alors, elle ne dit pas attention créatrice au départ, mais on retrouve cette notion d'attention donc, dès ses premiers écrits, jusque dans la racine. C'est vraiment une notion qui traverse toute l'œuvre. Au début de son œuvre, elle traduit ça comme une prise de la pensée sur les choses. Par l'attention, ma pensée a prise sur les choses, peut agir sur les choses. C'est-à-dire que quand on fait attention à quelque chose, on est tout entier porté vers ce vers quoi on fait attention. En ce sens, c'est très différent de l'effort musculaire. Et c'est ce qui fait que l'ordre, quand on dit à un enfant ou à un élève, fais attention, c'est un ordre impossible en fait. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire ? Il commence à froncer les sourcils. Et puis, du coup, il faut que je sois attentif. Mais du coup, s'il se dit, il faut que je sois attentif, il se concentre sur quoi ? Sur lui-même. Il rate le truc. Donc en fait, il se dit qu'il doit être concentré, etc. Et il rate ce à quoi il devait faire attention. C'est-à-dire que faire attention, ça suppose de s'oublier pour être tourné entièrement vers la chose. Bon, c'est pour ça qu'il y a un texte justement où il explique que l'essentiel dans les études scolaires, c'est pas ce qu'on apprend. Mais en revanche, les études scolaires, ça nous apprend à devenir attentif. C'est un bon préparatif à l'attention. Parce que on est face à un exo qui, le plus souvent, n'est pas très intéressant. Et pourtant, on doit essayer de le faire le mieux possible. L'idéal, c'est même de le faire de le faire juste pour ça, pour le faire le mieux possible, sans souci de la note. Travailler pour une bonne note, déjà, ça nous détourne de l'attention. Alors que quand on le fait pour lui-même, juste, je suis tout entier sur cet exercice, peu importe qu'on soit doué ou pas, ça, c'est pas grave, eh bien, ça développe l'attention. Au fond, l'attention, c'est un effort négatif. C'est un effort. Pourquoi c'est un effort négatif ? C'est un effort pour se nier, un effort pour s'oublier soi-même. Et on peut prendre l'exemple du sport aussi, notamment un rugbyman qui doit tirer une pénalité, s'il se concentre, ou un footballeur qui doit tirer un coup franc, s'il se concentre sur l'angle de son pied, il va rater son coup franc ou sa pénalité, c'est sûr. En fait, il doit être tout entier avec le ballon, les poteaux, il doit faire un tout, et il doit s'oublier dans le moment. Et peut-être le grand rugbyman, c'est Thomas Ramos qui, à la 81e de France-Angleterre, arrive à oublier le moment. En fait, c'est à cette condition, quand on s'oublie, qu'on peut être attentif. Avec, petite attention sur le mot attentif, être attentif, en fait, c'est attention, c'est avant tout être dans l'attente de ce qui va se passer. Donc on est disponible pour ce qui arrive. En fait, quand on est attentif, on est disponible à ce qui se passe. Et quand on est disponible, on est attentif à ce qui se passe. C'est exactement la même chose. Et du coup, si on se concentre sur cette notion d'attention, le lien avec la religion semble un peu ténu. Mais il n'est pas inexistant. On voit bien le lien déjà avec l'idée de s'oublier soi-même. Et la charité, c'est une attention sans faille à autrui. Mais si on rentre dans le détail, je vous rappelle que la charité, elle a pour objet le malheureux. Le malheureux, c'est celui à qui personne ne fait attention. Et donc c'est pour ça qu'on lui redonne son humanité. C'est-à-dire qu'on lui prête toute l'attention, on prête toute l'attention, même pas à quelqu'un, à ce que les autres voyaient comme quelque chose. Et nous, au lieu de voir, elle dit dans le texte 9, au lieu de voir un bout de chair, au lieu de voir quelque chose d'inerte, nous on voit l'humanité là où personne ne le voyait. Et quelque part, du coup, c'est en cela qu'on peut dire que l'attention est créatrice. Et donc on se retrouve doté, quand on fait preuve de cette attention, d'un pouvoir surnaturel, le pouvoir de création de l'humanité. Et cela va même plus loin. En fait, la foi qu'on a définie comme la croyance subjective au départ, en fait, la foi, ce n'est rien d'autre qu'une attention créatrice. On peut définir la foi comme une attention créatrice. Pour expliquer ça dans le texte 9, en haut de la page 4, elle définit, elle reprend saint Paul, mais elle dit « la foi est la vue des choses invisibles ». En cela, quelque part, c'est très proche de notre définition. Si on y a croyance subjective envers le divin, bah, le divin, on ne le voit pas. Donc c'est une croyance envers quelque chose que personne ne voit. Jusque-là, voilà. La vue des choses invisibles, c'est assez proche de la définition classique. Mais justement, quand on fait attention aux faibles, quand on fait attention à l'opprimé, on voit l'humanité là où tout ne le réduit qu'à une chose. Donc on fait attention en fait à ce qui n'est pas. Et tous les amours implicites sont des formes d'attention prêtées à ce qui nous entoure. L'idéal, mais c'est très rare, c'est l'attention pure. L'attention pure, c'est une attention à vide. Une disponibilité à ce qui pourrait peut-être éventuellement arriver. C'est-à-dire un amour, mais qui n'a pas d'objet. Donc on est encore au-delà là, des amours implicites. Parce que vous voyez, quand je suis dans la charité ou dans l'amitié, j'ai un amour pour mon ami. Donc j'ai un objet. Quand on passe le cran du dessus, j'ai un amour qui attend d'être rempli par quelque chose. Et c'est ça, cette disponibilité à l'autre, au monde, c'est le fondement de l'attitude religieuse. Souvent, et pendant très longtemps, ça, c'est un peu en train de changer, les études sur Simone Veil, qui traitaient de la religion, s'arrêtaient là. Et on en concluait que Simone Veil était une bonne âme, une âme tournée vers le bien. Mais si on en reste là, on pourrait dire qu'il y a quand même une complaisance pour le malheur. Même s'il ne faut pas prendre le malheur comme occasion de faire le bien, bon, c'est quand même pas mal, ça nous donne quand même l'occasion de faire le bien. Et en plus de cela, le malheureux, il en serait réduit à attendre qu'on le sauve, quoi. Donc, si on en restait là, au fond, Simone Veil, elle aurait peut-être une conception plus intense que d'autres sur la religion. Mais il n'y aurait rien de très original. Mais en réalité, cette option préférentielle pour les opprimés, voilà, ce souci constant des opprimés, ça doit être le point de départ d'une refonte de toute la civilisation. C'est-à-dire que, du coup, on ne peut pas dissocier les conséquences politiques de cette attention qu'on doit sans cesse porter pour les malheureux. Avec un problème, c'est qu'il y a une dimension politique, il y a des conséquences politiques, mais je vous rappelle que la collectivité ne mérite aucun respect. Et, bon, on a déjà vu une petite esquisse, c'est-à-dire que certes, la collectivité ne mérite aucun respect, mais il y a des sociétés qui sont moins parfaites ou moins imparfaites que d'autres. Donc en fait, il va s'agir de permettre à l'individu d'exister hors de l'oppression. Non pas supprimer le malheur, ça serait peut-être utopique, mais au moins limiter au maximum les causes sociales du malheur. Et donc c'est la troisième partie, la refonte de la civilisation que se propose Simone Veil autour de cette conception de la religion. C'est-à-dire que la difficulté, c'est donc que toutes les collectivités, et c'est pour ça qu'on ne leur doit aucun respect aussi, toutes les collectivités ont une dimension négative. L'homme s'y soumet et il se met à admirer la puissance. Il se met à jouer le jeu social. On tombe au fond toujours dans le jeu de l'animal social, avec ses passions, on se laisse prendre au jeu des passions sociales et du coup on perd son âme en faisant ça. Donc, il faut pouvoir proposer une civilisation qui permette de surmonter ce problème. Il faudrait presque proposer une collectivité individuelle. Enfin, bizarre, quoi. Avec un problème supplémentaire, c'est comment penser une civilisation débarrassée de l'oppression en se refusant, ou en tout cas, en, voilà, en se refusant la notion de droit. Je vous rappelle qu'il ne faut pas lutter pour ses droits. Et dans ce cas-là, comment on met fin à l'oppression? Parce que mettre fin à l'oppression, c'est quand même donner des droits à ceux qui sont opprimés, normalement. C'est-à-dire que si les sociétés sont oppressives, c'est parce que certains manquent de droits. Sans la notion de droit, comment penser la justice? Et donc c'est ce qu'on va voir dans une première sous-partie, hein, quelle justice pénale est souhaitable. C'est-à-dire que si on ne peut pas occulter la portée sociale de l'œuvre de Simone Veil, c'est parce qu'elle ne cesse d'identifier la charité et la justice. J'ai le souvenir d'un jeune hippocagneux qui avait passé une colle sur charité et justice, avec un excellent prof de philo. Et donc, pour elle, la distinction entre charité... Souvent, on a tendance à dire « la charité, c'est l'acte personnel, on choisit de faire la charité ». C'est d'ailleurs ce que disent certains, voilà, quand on entend Bolloré « j'ai pas de problème pour donner aux bonnes œuvres, mais par contre, je veux moins d'impôts ». Là, je veux choisir où je mets mon argent. Donc, on distingue la charité, qui est un choix personnel, et la justice, qui est une équité socialement conçue. Or, pour elle, ça, justement, c'est les sociétés injustes qui créent une distinction entre charité et justice, et, grosso modo, c'est une manière pour les riches de se donner bonne conscience. « Oh là là, t'es malheureux, j'y suis pour rien ». C'est pas ma faute, c'est un problème politique. Tiens, je te donne un peu pour atténuer ton malheur. Mais ce qu'elle dit, c'est que être charitable envers le malheureux, ça doit être la stricte équivalence d'être juste. Et donc, ça veut dire qu'on doit le traiter en égal. Alors, cela suppose une justice qui n'est pas comptable, qui n'est pas un calcul. Et donc, du coup, l'image de la balance est une image très dégradée de la justice. Donc, voilà. C'est-à-dire que si la justice n'est que cela, n'est qu'un calcul, voilà, c'est un maquillage des rapports de force. C'est, au fond, ça serait une justice naturelle. Dans la nature, oui, il y a des choses qui peuvent ressembler de loin à la justice. C'est quand deux personnes de force à peu près égales finissent par s'entendre. Mon exemple de la propriété, partage de propriété, bah oui, on est de force à peu près égale, un procès ça serait trop long, on va s'entendre à l'amiable. Voilà. Si j'ai les avocats pour payer, je fais le procès. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à côté de cette justice naturelle qui serait qu'un équilibre des forces, il y a ce qu'elle appelle une vertu surnaturelle de justice. Et la vertu surnaturelle de justice, c'est donc, voilà, rendre sa dignité au malheureux. Rendre son humanité, rendre sa dignité. Donc la vraie charité, c'est supprimer les conditions sociales qui créent le malheur. C'est-à-dire qu'en gros, on doit recréer l'égalité alors qu'on pourrait dominer le malheureux. Et donc, de fait, c'est pour cela qu'on ne peut plus séparer charité et justice, et que une vraie charité impose des conséquences politiques. Impose une refonte de l'ordre social, de A à Z. Mais, si on s'en tient qu'à cet aspect de la justice, on s'en tient qu'à un aspect de la justice charitable. S'il faut donner ce qui lui est dû à la personne, c'est comme ça qu'on définit la justice. La justice, c'est quand on reçoit ce qui nous est dû. Donc certes, on doit rétablir le malheureux dans son égalité, mais celui qui pêche, celui qui commet le mal, il doit être châtié. Donc, il doit y avoir, pour qu'un châtiment soit réellement juste, il doit y avoir un châtiment charitable. Ah oui, c'est logique. S'il y a un châtiment juste, si la justice, c'est la charité, le châtiment juste, c'est le châtiment charitable. Alors, déjà, ce qu'on peut dire... C'est ce qu'elle va développer notamment dans le texte 10. Vous voyez, hein, parfois, il peut y avoir obligation d'infliger le mal. C'est dans cela que consiste le châtiment. Alors, ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'absence de châtiment, ce serait la pire injustice possible. Parce que ça serait un manque d'attention. Ah oui, on peut prendre l'exemple des parents qui sont trop permissifs, qui laissent tout faire à leurs enfants, qui ne les punissent pas. Mais en fait, c'est qu'ils ne font pas attention à eux. Voilà. Donc, déjà, l'absence de châtiment serait un manque d'attention. C'est-à-dire que, comme les hommes sont seuls dans ce monde, puisque Dieu nous laisse être, ils pêchent. Comme ils pêchent, il faut qu'ils soient punis. Refuser la punition, c'est les laisser dans le malheur, puisqu'ils pêchent. C'est-à-dire que celui qui pêche s'est détourné du bien, il a perdu son humanité, et quelque part, le châtiment doit permettre de redonner son humanité au criminel. Vous voyez, l'opération est achevée quand le criminel, se demande pourquoi on lui fait du mal. Donc en fait, quand il a expié sa faute, il revient dans l'humanité. Il retrouve son humanité. Donc, la justice ne peut être charitable que si elle prête attention aux criminels. Et tout dans l'appareil judiciaire doit être fait pour lui redonner son âme. C'est-à-dire qu'on doit faire attention à lui, mais du policier qui mène l'enquête jusqu'au gardien de prison. Alors, concrètement, parce qu'elle ne donne jamais de cas concret, mais concrètement, ça voudrait dire, par exemple, abandonner toute idée de vengeance dans la justice. C'est-à-dire que la justice n'est pas là pour venger celui qui a subi un crime. Par exemple, si on prend l'état de notre justice actuelle, ça voudrait dire la fin de la comparution immédiate. Parce que quel est le degré suprême du manque d'attention que de faire passer à la chaîne les petits délits sans que l'avocat connaisse le dossier, avec le juge qui écoute d'une oreille distraite, parce que bon, c'est le 15e dossier de vol, voilà. Bah voilà. Ce serait bien entendu des conditions de détention dignes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on met une entasse 10 détenus dans une prise, dans une cellule avec des punaises de lit, voilà, on ne peut pas dire qu'on fasse vraiment attention à eux. Et ce serait aussi peut-être, bon, ça, bien sûr, elle ne pouvait pas y penser, mais développer la justice restaurative. Donc, la justice restaurative, c'est les rencontres qu'il y a entre victimes et condamnés autour, justement, pour échanger sur ce qu'ils ont fait. Bref, une réforme complète de la justice pour qu'elle soit charitable, ça suppose une institution qui cesse presque de fonctionner comme une institution. Parce que l'institution, elle tend toujours à avoir des automatismes. Et donc, si on a des automatismes, il y a des défauts d'attention. Donc en fait, l'institution judiciaire, voilà, il faut qu'elle vraiment soit entièrement consacrée à prêter attention aux criminels pour espérer qu'il retrouve son âme. Et on peut aller plus loin. Tous ceux qui ne traitent pas l'homme en humain, tous ceux qui le considèrent comme une chose, ils pêchent, ils méritent d'être châtiés. Voilà. Donc, non seulement il doit y avoir une réforme de l'institution judiciaire, mais aussi, ça demande des transformations des conditions sociales. Les oppresseurs, mais même pas seulement pour les opprimés, c'est pour les oppresseurs eux-mêmes, parce qu'ils perdent leur humanité. Les oppresseurs méritent un châtiment. Même si, c'est là où c'est compliqué, hein, c'est un châtiment qui doit être débarrassé de toute vengeance. Et c'est peut-être le problème, pourquoi les révolutions tournent mal? Parce que la plupart du temps, les opprimés, quand ils prennent le pouvoir, se vengent. Et donc, ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau de justice. Mais l'idée, c'est que de toute façon, pour créer de l'humanité en tout le monde, en tous, opprimés comme oppresseurs, il faut changer les conditions et il faut punir justement les oppresseurs. Mais alors, une question. Comment on explique qu'il y ait autant d'oppresseurs. Alors, il y a les lois naturelles, hein, bien sûr, on l'a déjà dit. Et au fond, on tend tous vers l'oppression. Mais en plus de ça, en plus des lois naturelles, il y a un effet de la civilisation. On a une civilisation qui manque d'inspiration, qui manque de dimension religieuse. À l'inverse, bon, alors il n'y en a pas beaucoup, hein, pas beaucoup de civilisations qui trouvent grâce à ses yeux. Il y en a deux. Il y a la civilisation occitanienne, voilà, donc les cathares, qui ne sont plus appelés comme ça, mais pour faire simple, et la civilisation grecque. Et elle dit, peut-être la civilisation hindoue, mais je ne m'y connais pas assez. Donc, c'est-à-dire que, notamment, l'absence d'inspiration religieuse, et d'inspiration tout court, en fait, dans la civilisation, conduit à une mauvaise conception du travail. Le travail est à la mauvaise place dans la société, et ça finit par contaminer toute la société. Et donc, pour sauver l'humanité, donc on est encore dans une dimension religieuse, hein, il faut accorder au travail sa vraie place. Le travail doit être le centre spirituel de la civilisation. Donc, on aborde là un élément pareil qui traverse, comme l'attention, qui traverse toute l'œuvre de Simone Weil, et qui montre la constance, la cohérence de sa pensée. Les variations, en fait, sont très faibles entre sa période où elle fréquente les anarcho-syndicalistes et la période où elle écrit ses textes totalement religieux en 42-43. Et d'ailleurs, dans La Condition ouvrière, on retrouve un panachage de ces textes. Le problème du travail commence par lui sauter aux yeux, par la séparation, bon, voilà, en tant qu'intellectuel, c'est la séparation entre travail manuel et travail intellectuel qui lui saute aux yeux. Cette séparation mutile la notion de travail. Elle la rend incompréhensible pour tous. Pour l'intellectuel, qui a tendance soit à mépriser le travailleur manuel, soit à l'exalter et à le placer trop haut. Vous voyez, c'est par exemple la conception ouvriériste dans certains milieux militants français où l'ouvrier a toujours raison parce qu'il est ouvrier quelque part. Ça, on place l'ouvrier trop haut dans ce cas-là. Donc, et bien sûr, ça mutile aussi le travailleur manuel qui se sent méprisé par la société. Et quelque part, c'est du fait de cette séparation que le travailleur devient une chose. C'est ce qu'elle montre très bien dans le texte 11, qui est extrait de La Condition ouvrière, hein, ça commence comme ça. Les choses jouent le rôle d'homme, les hommes jouent le rôle des choses. On prête plus d'attention aux choses dans une usine. Bah, voilà, on peut penser à l'employeur qui impose aux travailleurs d'enfreindre les règles de sécurité. Voilà. On prête plus attention à la production. Il faut que la production soit faite en temps et en heure. Tant pis pour la sécurité. Voilà. Et donc, du coup, si le travailleur devient une chose, on empêche l'attention chez l'homme. Et là, clairement, il y a des textes très durs contre la rationalisation, contre le machinisme. C'est un crime, un attentat. Est-ce que j'ai pas regardé ? Oui. Non, j'ai pas regardé le texte. C'est un attentat contre l'attention. Le travail à la chaîne, c'est un attentat contre l'attention, parce qu'on est obligé de se débrancher. Personne ne pourrait supporter de rester attentif dans le travail à la chaîne. Et d'ailleurs, voilà, les témoignages des ouvriers disent même que si on est trop attentif, en fait, on se blesse. Parce qu'on est trop dans la chose, en fait. Il faut vraiment devenir un rouage de la machine. Donc, du coup, c'est un attentat. Le problème, c'est que, du coup, en ne pensant le travail qu'en termes de choses, donc qu'en termes de produits, de production, on est contraint, finalement, à ne poser les questions qu'en termes de propriété, pardon, de l'outil de travail. Qui est propriétaire, et qu'en termes de salaire. Les revendications ne se posent que sur ces deux éléments. Voilà. Les marxistes pensent que tout ira bien quand la propriété deviendra collective, et l'essentiel du combat syndical se passe en une lutte pour l'augmentation des salaires. Mais en agissant de la sorte, les organisations ouvrières manquent ce qui est essentiel, puisqu'ils ne s'attaquent pas à la vraie cause du malheur. Au fond, une propriété collective ne réglerait pas forcément le problème. Exemple, l'URSS. L'URSS, il y a une propriété étatique, donc il n'y a plus de propriété privée des moyens de production. Il ne semble pas que les ouvriers en URSS aient été très heureux. Voilà. Donc, quelque part, le travail ne peut redonner sa dignité à l'opprimé, au travailleur, que s'il a une dimension surnaturelle. Et ce n'est que si on arrive à saisir cette dimension surnaturelle dans le travail que le travail physique, dans ce cas, devient une attention au réel. Alors, comme le travail physique peut être une attention au réel, c'est pour cela que le travail permet la spiritualité et doit être au cœur de la spiritualité de la nouvelle société. Il est ce par quoi la civilisation peut devenir réellement humaine. C'est ce que montrent les textes 12 et 13, extraits de l'enracinement. Donc, bien entendu, condition initiale, il faut supprimer la condition prolétarienne. Voilà. La condition de prolétaire est la pire chose qui puisse exister. Mais, vous voyez, en plus de ça, il faut faire en sorte que le travail soit source de bien spirituel. Alors, souvent, dans le texte 13, vous avez peut-être déjà vu hein, la citation, mais on reprend que le dernier paragraphe. Il est facile de définir la place que doit occuper le travail physique dans une vie sociale bien ordonnée. Il doit en être le centre spirituel. Encore une contradiction, mais la spiritualité dans le travail physique parce qu'on prête attention au réel. Sauf que ce sont les derniers mots de l'enracinement. Donc son œuvre se termine par ces mots. Son œuvre, toute son œuvre philosophique se termine par ces mots. Sauf que souvent, on oublie les quelques paragraphes qu'il y a avant. Et dans ce cas-là, quand on dit que le travail doit être le centre spirituel de la société, ça ne veut pas dire que le travail est une sinécure, sera sans peine ou sera une panacée. C'est pas ça du tout. Le travail peut constituer le point de départ de notre destination surnaturelle parce qu'il est avant tout un châtiment. Et là, elle reprend la Genèse. Du fait du péché originel, on est condamné à travailler. C'est-à-dire que le châtiment que l'on mérite, c'est le travail. Mais, rappel ce qu'on a vu sur la justice, le but du châtiment, c'est de nous réintégrer avec le bien. Donc, par le travail, on se soumet à la matière et à la nécessité, et on consent à notre sort. On s'y soumet en étant attentif. On ne s'y soumet plus comme une chose. Donc le travail, si le travail ne nous prive pas, si le travail nous prive de l'attention, sa vertu de châtiment disparaît. Le travail à la chaîne. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir consentir au travail. Et c'est pas possible dans un travail de servitude. Sans cela, la civilisation nous condamne à plus ou moins brève échéance au malheur. Et donc, si le travail doit être le sens spirituel d'une vie sociale bien ordonnée, ça veut dire qu'il doit y avoir du travail pour tous. Alors, je ne dis pas droit au travail parce qu'on a vu hein, que la notion de droit est gênante, mais c'est ça. Il doit y avoir du travail. Tout le monde doit pouvoir avoir accès au travail. Et s'il ordonne la vie sociale, il doit aussi laisser être une autre vie. Il n'est pas toute la vie sociale. Donc, c'est lui qui permet au reste de la vie sociale d'exister. Donc il doit y avoir une limitation du temps de travail. C'est-à-dire que la suppression de la condition prolétarienne dont elle parle dans le texte 12, ça veut dire suppression des grandes usines, parce que la grande usine conduit presque inévitablement à la servitude. Limitation du temps de travail et faire en sorte qu'il y ait un mélange entre moments intellectuels et moments physiques, manuels, dans le travail. Sauf que, Que ce soit dans le rapport au travail ou dans le rapport à la justice, il y a une ambiguïté. Je vous rappelle que l'enracinement, alors, ne se présente pas comme ça, mais est un livre de commande. C'est commandé comme un plan de réforme pour reconstruire la France d'après-guerre. Je vous assure que quand vous lisez le texte, j'aimerais bien savoir la tête qu'ont fait les commanditaires quand ils ont vu le texte. Parce que, à côté, la République de Platon est presque plus en prise avec le réel. Donc, voilà. Voilà. Et même si on compare avec l'idéal, avec son idéal, il y a un petit texte dans La Condition ouvrière qui s'appelle « Mon idéal, le voici », il y a très peu de différence. Donc, au fond, on a vu qu'il y avait des implications sociales qu'on ne pouvait pas éluder, mais pratiquement, sa conception de la politique et de la société est tellement idéale, à quoi peut nous servir Simone Veil aujourd'hui ? En gros, que faire de Simone Veil ? C'est le sens de ma troisième sous-partie, que nous est-il permis d'espérer ? Je vais pas mal paraphraser les philosophes ce soir. C'est-à-dire que, est-ce qu'il peut y avoir une conséquence pratique à tout cela pour notre vie de tous les jours ? Alors d'abord, le fait qu'il s'agisse d'idéal ne doit pas totalement disqualifier les vues de Simone Veil. L'idéal, ça permet de fournir une direction. Ça permet, et s'il est cohérent, s'il ne contient pas de contradictions logiques, il fixe une limite théorique à nos actions. Supprimer l'oppression, même si ce n'est pas possible concrètement. Pour que cela ait un sens, il faut voir que tout ce que recèle la condition humaine est distinguer ce qui est de l'ordre de l'oppression et ce qui est de l'ordre du caprice. Vous voyez, supprimer l'oppression, ça ne peut pas être faire du travail un plaisir. Le travail ne sera jamais un plaisir. Il y aura toujours une dimension de labeur dans le travail. Donc, en fait, l'idéal constitue une limite à notre action. Donc, en cela, déjà, ça permet de voir vers... Ça sert presque d'idéal régulateur, de guide à notre action. C'est-à-dire que ça permet de chercher la forme sociale la moins oppressive possible, tout en sachant que, par nature, la société conduit à un éloignement de la vie vraiment humaine. Donc, c'est ce qu'elle dit dans le texte 14, d'une part, il n'y a rien à espérer des hommes. Bon, que nous est-il permis d'espérer, ça commence mal. Il n'y a rien à espérer des hommes, mais néanmoins, une autre relation entre hommes est à la fois possible et souhaitable. Puisque des cas exceptionnels nous le montrent. Une relation qui permette à l'individu de penser malgré les conditions sociales. C'est ce qu'elle montre dans le texte 15. Hein. La vie sera d'autant moins inhumaine que la capacité individuelle de penser et d'agir sera la plus grande. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que l'individu puisse réellement penser par lui-même. Donc l'extraire aux déterminismes sociaux, par exemple, l'extraire au malheur. Donc autrement dit, même si l'espoir est très faible, même s'il est très probable qu'on perde, l'espoir de cette relation à venir doit se poursuivre malgré tout. Quand bien même la défaite serait probable, la lucidité de ce qui devrait advenir, la lucidité du bien, est un devoir. Et malgré tout, même si on perd, l'orientation qu'il faut s'efforcer d'avoir, aucune concession à l'animal social. Voilà. Cette orientation sera peut-être féconde. On peut penser à Jaurès. En effet, Jaurès a perdu. Néanmoins, 100 ans après, il continue d'infuser la pensée du socialisme. On peut penser... En venant, j'écoutais une émission sur Chico Mendes, le syndicaliste brésilien. Il a perdu, il est mort. Néanmoins, il continue d'inspirer les militants brésiliens aujourd'hui. Et on peut sûrement... Lula est décevant. Sûrement. Sûrement, ça ne va pas assez vite. Sûrement, il reste des miséreux au Brésil. Sûrement, l'agro-industrie n'a pas été dégagée de son action inhumaine. Néanmoins, ça progresse un petit peu. Il y a un petit peu. Et il y a quand même... Quand on écoute Lula, je pense que l'inspiration de tous les militants tombés pendant ces années, pendant les années de la dictature, ou post-dictature, parce que Chico Mendes, c'est post-dictature, mais voilà, joue là-dedans. Donc, un tel discours peut au moins éviter à la lutte pour la libération de s'égarer, et notamment de s'égarer dans la vengeance. Voilà. Si on prend l'œuvre politique de Mandela, notamment la construction de l'Afrique du Sud, il y a plein d'erreurs. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il n'a pas cédé à la vengeance. Donc, quelque part, c'est à nous de lui trouver une place à Simone Veil. Et à nous de lui trouver une dimension pratique, réelle, dans nos actions politiques, dans nos actions morales. Et de ne pas en faire simplement la personne éthérée qu'on en fait parfois. Voilà. Donc, pour conclure, on voit bien que, quelque part, ce qui semblait les contradictions initiales, hein, notamment anarchisme-christianisme, ce qui semblait vraiment, quand on lit ça la première fois, on se demande comment c'est possible, ça paraît logique. Un véritable militant anarchiste, il n'y a pas beaucoup d'éloignement entre Durruti et un véritable engagement chrétien. Et au fond, d'ailleurs, ce que propose le Christ, c'est pas si loin que ça de l'anarchie, en fait. Donc, les contradictions, c'est au contraire, c'est parce que nous ne sommes pas assez cohérents avec notre pensée qu'on voit des contradictions. C'est-à-dire que on se laisse aller à des devises sociales, on se laisse aller au on-dit. Au on-dit de la religion, au on-dit de ce qu'on croit de l'anarchisme. Un peu comme les élèves quand ils disent pourquoi les lois servent, sinon ce serait l'anarchie, et on doit replacer. Mais non, l'anarchie, c'est pas ça, c'est un système politique très cohérent, etc. On se laisse aller, en fait, on oublie de penser. Si on pense jusqu'au bout, il n'y a plus tant de contradictions que ça. Et donc, quelque part, il s'agit juste de ne pas oublier cette option préférentielle pour les opprimés. Je voulais juste finir cette conclusion avec une idée. On peut être surpris d'une chose, c'est le peu de postérité de Simone Veil. Là, ça change un petit peu actuellement, mais pendant très longtemps, elle n'a pas été considérée comme une grande philosophe. Mais, en fait, il faudrait retourner la chose. C'est-à-dire que c'est plutôt extrêmement surprenant qu'une femme, philosophe, qui n'a rien publié de réellement notable, qui est morte à 33 ans, qui laisse des papiers en désordre, ait pu malgré tout être transmise. Le manque d'héritage, c'est vrai qu'il y a sa cohérence extrême a gêné aux entournures. Donc, les marxistes avaient du mal à se l'approprier et à en faire quelque chose par son côté religieux. Les religieux essayaient de gommer l'engagement politique, et donc du coup, personne n'a trop trouvé de place à Simone Veil. Au-delà du fait qu'il y a un conflit aussi dans l'édition de ses œuvres entre les catholiques conservateurs et les militants progressistes, donc grosso modo entre Camus d'un côté et Thibon de l'autre. Donc tout ça gêne. Thibon, c'est le premier éditeur de Simone Veil, qui est plutôt un catholique conservateur. Tout ça a gêné l'héritage de Simone Veil. Mais quelque part, le fait que personne ne puisse l'approprier, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça change beaucoup ces dernières années. Elle est entrée au programme du baccalauréat. C'est la consécration suprême pour un philosophe. Et notamment, elle a été beaucoup reprise par la philosophie du soin. Donc, que ce soit dans la médecine, mais même le soin au sens large, c'est-à-dire il y a un courant philosophique autour de Frédéric Worms, notamment, qui tend à montrer que le cœur de la médecine, ce n'est pas tant l'acte technique, mais l'acte de soin. l'attention qu'on porte à l'autre. Et vous voyez bien qu'avec la notion d'attention, bah, on est en plein dans Simone Veil. Donc, alors, elle n'est pas à l'origine de ces courants de philosophie du soin, mais elle a été beaucoup, beaucoup réinvestie. Hein. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Nicolas, et donc la parole est à la salle.
Et dans cette optique, le silence de Dieu, c'est une preuve même de son existence, alors c'est la meilleure preuve.
Oui.
Parce qu'il se retire pour nous laisser advenir.
Oui, mais le penser trop comme ça, ça serait oublier qu'il doit être absent. Ça serait croire qu'il y a une pensée du derrière. Qu'en fait, il fait ça pour nous faire croire que. Donc, bien sûr, c'est une preuve, mais ça ne peut pas être une preuve absolue. Il y a toujours cette hypothèse que peut-être qu'il n'est pas là. Peut-être qu'il n'y a pas de Dieu.
Ce n'est pas le Dieu caché.
Non.
Dans la pensée de Simone Veil, vous voulez dire ?
Bah oui, oui, oui. Alors, pas pour elle. Pour elle, bien sûr que Dieu est là. Mais en fait, c'est plutôt... On ne peut pas dire que son silence ou son absence est une preuve. Il y a une absence de preuve. Voilà. Qui n'est pas une preuve d'inexistence. Et quelque part, on pourrait presque aller plus loin. Dieu, c'est un nom. À partir du moment où l'homme est capable de bien, il y a du divin. Chaque acte bon, chaque bien fait, réellement désintéressé, c'est du divin. Et c'est ce qui crée l'humanité. On en est presque à une notion... L'humanité, il n'y a pas réellement de nature... Enfin, on parle de nature humaine par commodité, mais l'humanité, elle est uniquement dans la relation à l'autre. Elle n'est que là. Et donc, elle met Dieu. Un incroyant qui serait dans l'amour implicite ne met pas Dieu, on s'en fiche. Il y a la même relation humaine qui se crée. Et c'est ça qui est quasiment surnaturel. Je ne sais pas si je réponds à la question.
Donc il n'y a pas de toute puissance de Dieu.
Alors, c'est un peu plus compliqué. J'ai insisté sur l'essentiel. S'il n'y avait pas de toute puissance de Dieu, ça serait trop facile. C'est trop facile d'être kénotique si on n'est pas tout puissant. Ah ouais. Donc il est tout puissant, mais il accepte de ne pas utiliser sa toute puissance.
Peut-être que c'est parce qu'il est tout puissant qu'il ne fait rien.
C'est même sûr. C'est-à-dire que, vous voyez, moi, c'est facile de dire je suis kénotique et je ne frappe pas Didier. Mais c'est juste que j'en suis pas capable. Voilà. Faut que Dieu en soit capable pour être dans le retrait. Sinon...
Je peux me permettre ?
Oui.
Comme ça, mais la douleur, c'est là d'être très important chez Simone
Veil. Oui. Oui. D'abord, dans sa vie personnelle. C'est-à-dire... elle dit que quand même quelque chose qui l'a bouleversée à jamais, c'est la vie d'usine. Bon, elle a toujours été, c'est la vie d'usine. C'est deux ans en usine. Elle dit, j'ai toujours senti une empathie confuse envers les malheureux, mais ça restait théorique. Avec l'usine, j'ai éprouvé le malheur dans ma chair.
Voilà. Rien n'est merveilleux comme un châtiment.
Oui, alors oui, bah oui. Pourquoi rien n'est merveilleux ? Alors ça, c'est deux choses différentes. La douleur est très importante, même parce que une douleur permanente, vous voyez, vous imaginez un mal de dents. Un mal de dents, on a très mal. Il y a une rage de dents. Mais au fond, une fois que c'est passé, c'est oublié. Imaginons une rage de dents permanente. Bah là, la douleur, c'est pour ça que j'ai dit le malheur doit être distingué de la douleur, mais il n'est pas non plus totalement séparé. C'est-à-dire qu'une douleur trop constante va conduire au malheur. Alors, quand elle dit « rien n'est merveilleux comme un châtiment », il faut plus le voir dans le côté extrêmement... c'est ce qui nous sauve. Le châtiment nous sauve. Donc c'est pour ça que c'est merveilleux. C'est parce que c'est ce qui nous réhumanise, en fait. Mais quelque part, c'est comme ça que quand on punit un enfant, la punition ne fonctionne que s'il ne sait qu'on le punit pour lui et pour son bien. Oui. Et, quand, et ça arrive. Ça arrive. D'abord, ça, ça veut dire qu'on ne doit pas le punir parce qu'on est énervé, en fait. Et oui, en effet, on est en retard le matin, je punis, je m'énerve. Ben là, non, ça ne marche pas. On doit, et même, on ne doit pas le punir sous le coup de l'énervement, parce que si on punit sous le coup de l'énervement, on ne va pas réussir à montrer qu'on punit pour le bien. Néanmoins, il arrive quand même que l'enfant, quand il comprend la punition, en fait, il a senti que c'était pour son bien. Et donc, dans ce cas-là, alors, il ne va pas nous remercier parce qu'il y a encore un petit orgueil humain. Mais au fond, le fait qu'il ne rechigne pas à la punition, même parfois il la fasse presque avec plaisir, ça montre bien qu'il nous remercie au fond. Donc la merveille du châtiment, elle est plus là. Comment, alors qu'on était pécheurs, on revient dans le bien grâce au châtiment?
Il y a tout de même une phrase qui me rend un peu perplexe.
Alors,
dans le texte numéro 10.
Dans le texte numéro 10.
Deuxième paragraphe. Donc, le châtiment n'est pas autre chose que cela. L'art de punir et l'art d'éveiller chez les criminels, le désir du bien pur, par la douleur ou même par la mort.
Ouais. Alors oui. Oui, bah oui. Et il y a même un texte qui est extrait des formes de l'amour implicite de Dieu. Où elle va plus loin, elle dit « Il vaut mieux être condamné à mort pour une faute légère et qu'on fasse vraiment attention à nous que d'être puni de 3 semaines de prison avec sursis et qu'on nous traite comme de la merde. » Bon, voilà. Parce que, au fond, alors, c'est la coupée là, la mort, bien sûr, elle rend impossible une réintégration effective. Mais il faudrait idéalement, de toute façon la mort c'est pas grand chose, il faudrait idéalement réussir à faire comprendre à la société et aux criminels que la mort est la peine par laquelle il va être réintégré dans la communauté.
Moi j'ai l'impression de retrouver une argumentation, enfin évidemment c'est pas pareil, que l'on a chez Thomas d'Aquin par exemple. Quand il justifie la peine de mort en disant que bon
de toute façon, on s'en fiche.
C'est l'homme évidemment va charnellement va disparaître, mais c'est pas le plus important. C'est l'âme.
Avec, il me semble, alors ça fait très longtemps que j'ai pas lu Thomas d'Aquin, donc mais dans mon souvenir. Il y a quand même l'idée chez Thomas d'Aquin que on est d'abord, il y a quand même notamment l'idée que celui qui a corrompu la communauté, dans mon souvenir c'est ça, hein, celui qui a corrompu la communauté, il mérite vraiment la mort parce que
oui,
c'est
parce qu'il contamine, voilà. Il contamine la société.
Donc là, il y a quand même.
Ça, c'est par rapport aux autres.
Ouais, mais donc, je pense qu'il y a cette idée. Simone Veil dirait, mais donc, du coup, dans ce cas-là, on ne s'est pas débarrassé de la vengeance. En fait, bon.
Non, c'est pas la vengeance, c'est pour préserver les autres du mal.
Oui, alors ça, justement, surtout pas.
Non, mais là il s'agit du criminel. C'est-à-dire, en fait, on va le sauver d'une certaine manière, en lui offrant la mort.
Alors. Moi, je le vois plus comme l'idée que c'est plus la limite. Même la peine de mort ne devrait pas être exclue de ce raisonnement. Après, vous voyez, tu vois la phrase « Faire de l'idée de justice répressive le mobile central dans l'effort de la guerre et de la révolte est plus dangereux que personne ne peut l'imaginer. » C'est-à-dire que malgré tout, sa grande idée, c'est que la sévérité des peines, on s'en fiche. C'est pas la sévérité des peines n'est pas l'essentiel. Et donc, par cohérence, elle va jusqu'au bout et elle montre, bah, si on s'en fiche de la sévérité des peines, bah, la peine la plus sévère, la peine de mort, en fait, on s'en fiche. C'est pas ça, c'est pas là l'enjeu. Voilà. Et d'ailleurs, on pourrait dire que. pourquoi le condamné à mort est parfois moins victime d'une injustice? Parce qu'au moins, généralement, le jour de son exécution, on fait attention à lui. Voilà.
Et il est reconnaissant.
Mais ceci dit, il n'y a pas... Souvent, dans les récits qu'on peut lire chez Badinter, etc., ou chez d'autres avocats, il y a toujours cette idée de la dignité du criminel qui va à l'échafaud. Ce qui est très bizarre. C'est des crapules jusqu'au bout.
Oui, enfin, moi, chez Badinter, je vois plutôt aussi...
Alors, je pense plus au récit quand il l'a accompagné, vraiment.
Oui, mais en tout cas, il dénonce tout de même la
peine. Ah oui, bien sûr.
Comme une erreur absolue.
Oui, oui. Mais si c'est une... Pourquoi ? Et c'est pas si loin de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que si c'est une horreur absolue, au-delà du terme un petit peu définitif de la chose... C'est un peu gênant quand même. C'est aussi une horreur absolue parce que je ne vois pas comment on pourrait penser la peine de mort sans que ce soit une forme de vengeance de la société sur le crime. Et comme on doit se débarrasser de toute vengeance, bah, à mon sens, voilà.
Mais elle dit que l'art de punir, c'est l'art d'éveiller chez les criminels le désir du bien pur.
Oui. Donc on pourrait supprimer le par la douleur ou même par la mort. Le ou même, c'est vraiment...
Ah, par la douleur ou même par la mort, mais c'est même le moyen par lequel on éveille ce désir.
Oui. Et... C'est-à-dire que, en fait, le désir, il est intimement lié à l'attention. En fait, on désire... Quand on désire, on fait attention. On fait attention à ce qu'on désire.
Et on donne les moyens à celui qui va être condamné d'être attentif.
Voilà.
Grâce à la douleur.
Voilà. Donc on lui fait attention. Grâce à la douleur. Oui. C'est pour cela, par exemple, que la sévérité des peines n'est pas l'essentiel. L'essentiel, ça serait porter attention.
Oui, il y a une positivité tout de même de la souffrance.
Ah oui. Oui. Bah, surtout si elle est donnée par châtiment. Si elle n'est pas donnée par châtiment, mais au fond, si elle n'est pas donnée par châtiment, non, il n'y a pas de... Enfin, il y a peut-être une fascination, déjà, pour la souffrance. Ça, clairement. Mais oui, il y a presque un côté masochiste.
C'est ça qui me gêne, moi, dans le discours de Simone Veil.
Alors, oui, je retiens plus quand même l'idée, notamment, qui est quand même assez peu fréquent, l'idée que le criminel est avant tout un malheureux. Et c'est ça, voilà. C'est ça qu'on a trop tendance à oublier. Et peu importe, on peut prendre le pire criminel. En fait, pour agir comme il agit, c'est qu'il est malheureux. C'est qu'il a perdu son âme. Et voilà. Moi, je retiens plus ça. Alors, oui, ça suppose un châtiment, et ça suppose, c'est vrai, une fascination un petit peu pour la souffrance. Mais si on se concentre sur la relation à l'autre que l'attention permet, ça peut, je pense, être porteur de... Notamment, ça peut être porteur de... être assez fécond pour penser le monde qui vient. Et notamment, si on reste sur la notion de justice, l'idée que la justice doit être charitable et qu'on ne peut pas séparer justice et charité.
On ne peut pas ou on ne doit pas prendre du plaisir au travail. Parce que ça peut arriver quand même.
Ça peut arriver. Oui. Alors, Je pense que si on prend le plaisir qu'on prendrait au travail est une marque de notre consentement au travail. Donc de notre consentement au châtiment. C'est pas dans le texte, c'est pas si clair que ça. Mais comme on doit consentir au châtiment, le plaisir est une marque de ce consentement. Le risque étant, dans ce cas-là, qu'on oublie de s'oublier. Puisque je vous rappelle qu'on doit s'oublier soi-même pour être dans la relation avec l'autre. Mais... C'est-à-dire que je vais faire quelque part, même si je prends du plaisir à parler philo avec mes élèves, je vais me faire plaisir à moi et faire un texte très difficile et oublier les élèves. Donc d'une certaine manière, le plaisir que je prends au travail est une marque de mon consentement à mon châtiment d'humain, à mon sort. Plus heureux de mon sort. Mais il ne faut pas trop tomber dans le plaisir. Voilà. Parce que sinon je fais court pour moi. Oui, c'est alors c'est sympa hein, de faire court pour soi. Mais...
On va essayer de transmettre.
Voilà. Et donc c'est de l'attention à l'autre. Et l'attention à l'autre, mais toujours pour essayer d'éveiller chez l'autre cette attention aussi.
Quelle est la limite de la dénonciation de toutes les collectivités ? À un moment donné, enfin, quand on imagine une société, on est bien obligé de. Par exemple, même si elle était un peu attirée par l'anarchisme, j'imagine que dans le milieu ouvrier, il y avait du.
L'anarcho-syndicalisme. Oui. Et
quelles sont les limites qu'on peut retrouver à cette dénonciation telle que je l'ai entendue assez complète du collectif dans la déclinaison de l'organisation d'une société qu'on souhaite
Alors, du coup, la société est un mal nécessaire. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire que, voilà. Mais, du coup, on doit faire en sorte, le supporter, parce que c'est notre sort, et surtout faire en sorte que la société n'asservisse jamais l'individu. Et ça, quel que soit, notamment, elle a des mots très durs après envers le syndicalisme, elle a des mots très durs envers le Parti communiste. D'abord, parce qu'il y a cet acte de soumission de l'intelligence au parti, qu'elle ne supporte pas. Elle a des mots très durs envers le prestige social qu'on peut accorder à tel ou tel, à tel parti. Et elle finit par avoir des mots très durs envers les syndicats, qui oublient justement qu'ils se perdent dans ce qu'elle appelle des questions de gros sous, et qui oublient la dignité. Alors elle dit, bien sûr, il y a une partie qu'on ne peut pas on ne peut pas complètement faire abstraction de la question des gros sous.
Comment ? Il y a une finalité aussi, quand même.
Mais voilà, le problème, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue la finalité. Et voilà, ça, il y a vraiment un changement entre... Au moment du Front Populaire, ces textes syndicaux sont très empreints de... Voilà, le syndicalisme, c'est le fer de lance de la dignité de l'homme. Et les textes post 40, donc après la défaite, qui là sont beaucoup plus durs envers les syndicats. Notamment, je dirais aussi parce que elle a vu, quand elle dit qu'elle n'a jamais changé d'idée, c'est faux, il y a un élément sur lequel elle admet avoir changé d'idée, c'est le pacifisme. C'est-à-dire qu'elle est, comme Alain d'ailleurs, proche, et comme beaucoup de mouvements à gauche dans les années 30, proche d'un pacifisme intégral. Et elle reste pacifiste intégrale après Munich, mais début 39, là, elle écrit un texte qui s'appelle « Réflexion en vue d'un bilan » et en disant « Face au péril qui monte, on ne peut plus se permettre d'être pacifiste. » Et c'était une erreur d'être pacifiste jusque-là. Parce que le totalitarisme va écraser l'homme, et quelque part, même même si la guerre comporte tout ce qu'on a vu avec l'Iliade, malgré tout, on ne peut pas laisser l'homme se faire écraser. Et donc, pourquoi je dis ça ? Quelque part, elle leur reproche d'avoir oublié, elle reproche au syndicat, elle reproche à la collectivité d'avoir oublié la dignité de l'homme, et quelque part, toute collectivité, c'est pour ça qu'il y a des collectivités plus ou moins imparfaites, toute collectivité qui empêcherait l'homme d'être digne, d'avoir une dignité, de recouvrer sa dignité humaine, serait condamnable. Donc, il y a quand même une, voilà, il y a quand même une société souhaitable. C'est celle où l'individu pourrait penser individuellement et librement par lui-même.
On peut peut-être aussi rappeler qu'elle est avant-guerre l'une des rares à dénoncer la colonisation.
Oui. Dans les termes, j'ai pas mis les textes sur la colonie parce que les termes sont vraiment, vu que je me suis centré plus sur les textes liés à la religion, mais la dénonciation de la colonisation, c'est exactement ça. C'est vraiment, les termes sont proches de ceux de l'Iliade. On traite l'homme vraiment comme un bout de matière, quoi.
Ben écoute, on va te remercier parce que c'était vraiment bien. Et puis, on va peut-être clore maintenant donc la séance. Je vais arrêter.
Parce que l'édition, vu qu'elle n'a rien proposé par elle-même, l'édition des œuvres de Simone Weil, c'est un peu le bazar. Moi, je vous conseille celui-là. Il est gros, mais il embrasse vraiment. C'est une anthologie, donc chez Gallimard. Le Quarto Gallimard. Qui embrasse vraiment toutes les dimensions de sa pensée.